Nous vous proposons de suivre la deuxième partie d'un entretien autour de Benoît Lambert, entretien animé par Hervé Bismuth et Cécile Chanu.
Je crois pas dans l'absolu, si maintenant j'ai envie de dire dans l'absolu, parce que j'y pense à partir de ce que tu viens d'expliquer, que le fait de mélanger peut-être ce que dit Cécile, culture savante, culture populaire, ou ce qui est d'avant, ou ce qui est de maintenant, sincèrement, je pense que sauf à être de mauvaise foi ou à être complètement naïf, je réalise à quel point en fait on n'a pas le choix.
Oui, je pense, oui.
Voilà, les mises en scène dites historicisantes, enfin moi j'en connais. Je n'en ai vu que de deux types. C'est le type de l'ancienne mise en scène du Tartuffe par Planchon, mais qui n'était pas pour renvoyer à un ailleurs, simplement, pour simplement montrer la distance, une idée de distance, un fantasme de distance. Et l'autre type de mise en scène historicisante, du type nous faisons à la manière d'eux, où maintenant qu'on a des documents cinématographiques, on finit toujours par constater qu'à la manière d'eux, c'est la manière de ce qu'on avait créé il y a à peine 30 ou 40 ans. C'est surtout pas la manière de Moulière et Musset. Et je crois que, effectivement, si on arrivait à. Je pense que ça pourrait intéresser les universitaires à le faire, s'ils ne l'ont pas fait. À reconstruire, par exemple, un Molière des familles avec justement la diction de l'époque ou ce qu'on peut reconstituer, et puis surtout la gestuelle de l'époque. Je pense que, par définition, logiquement, ça ne rencontrerait pas le public du XXIe siècle. Mais c'est vrai que, de l'autre côté, dire je fais moderne, ben non, parce que le texte est là.
Il y aura toujours une résistance de la langue, une résistance de l'écriture. Donc effectivement, oui, c'est dans ce télescopage qu'on invente un plateau. Mais encore une fois, pas pour dire rien de mieux que les classiques pour parler du monde actuel, parce que ça, je trouve que c'est un mensonge, vraiment. Mais c'est un mensonge qu'on n'entend plus guère en même temps. Enfin, j'entends plus beaucoup de metteurs en scène qui osent dire ça maintenant.
Non, c'était quelque chose des années 70-80, ça.
Oui, mais parce que je pense, enfin, en tout cas, il faudrait regarder de près, mais je pense que le rapport au classique que peut avoir ma génération, c'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui 40 ans, n'est pas du tout celui que pouvaient avoir nos pères, et encore moins nos grands-parents. C'est-à-dire, je pense que les gens qui sortaient de la guerre, je pense à Villars évidemment, mais à tous les premiers pionniers de la décentralisation, se sont servis des classiques pour refaire l'unité nationale. Il y avait vraiment cette idée de refaire l'unité nationale. Je pense que la génération des années 60-70, Vincent que j'ai cité, Chéreau, il me semble, il faudrait leur demander, je ne vais pas parler à leur place, mais je crois comprendre que leur mouvement de retour au classique était un mouvement polémique, extrêmement polémique, vis-à-vis de la génération de leur père et de la façon dont les classiques avaient été investis par cette génération-là, en disant « vous l'avez fait au nom de l'unité nationale, mais en réalité vous avez caché la collaboration ». Il y avait presque une chose de cet ordre, très polémique chez... C'est très fort chez Vincent. On sent vraiment qu'il y a un crime des pères, et ce crime, il est très simple, hein, c'est la collaboration, je crois. Enfin, pas des pères biologiques de Jean-Pierre Vincent et Patrice Chéreau, pour ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, de la génération qui les précède. Et eux attaquent les classiques avec une volonté extrêmement polémique, mais justement sur la culture nationale, et sur ce que la France a produit de pire. Par exemple, c'est sûr que quand Vincent a monté On ne badine pas avec l'amour dans les années 80, quand il s'est intéressé à Musset, on avait vraiment l'impression que c'était Musset à Vichy. Enfin, je sais pas comment, il a travaillé sur Vichy beaucoup, en plus Vincent, violence à Vichy, etc. Et que tout à coup, cette France rurale, campagnarde, avec des curés partout, des espèces de notabilité locale, on ne pouvait pas s'empêcher de penser à la guerre. Enfin, il y avait vraiment une chose de cet ordre-là. On voit bien que c'est contre ça qu'il portait le fer. Notre situation est vraiment différente. C'est-à-dire que les classiques, on n'a ni besoin de les... Enfin, moi, j'ai ni besoin de les... J'ai pas énormément de comptes à régler, sauf si ce que je disais sur la question de oui, qu'est-ce que si les comptes pour nous ils sont différents, c'est la question de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un président en exercice qui dit qu'il faut monter Musset, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais ça a quand même été concomitant, qui explique qu'il faut monter Musset, qui dans le même temps essaye de redéfinir ce que c'est qu'une identité nationale, là je dis oui, il faut que les artistes s'occupent eux-mêmes d'opérer leur propre traitement de ces objets-là, et il faut cette vigilance. Mais en revanche, par rapport au mouvement de l'histoire, je suis ni en train d'essayer de réconcilier la nation, ni de... Voilà, c'est autre chose. C'est... Encore une fois, savoir avec la jeunesse, je finis juste là-dessus, c'est que, a priori, les poètes, ça aide à vivre. Enfin, sinon, ça sert à rien. Et puis l'art, ça aide à vivre, sinon, ça sert à rien. Moi, je crois pas du tout que l'art soit inutile. Et qu'au fond, c'est comme des formulations miraculeuses qu'on découvre à travers ces auteurs-là. Chez Musset, je sais qu'il y en a des formulations miraculeuses. De Bauche, Pierre de Bauche, mon vieux maître, disait toujours que notre travail à nous, c'est de traduire le silence des spectateurs. Et qu'au fond, c'est vrai que la plus belle émotion de théâtre, c'est quand on se retrouve face à une scène. Et c'est pas la même chose de le lire dans un livre et de l'entendre dit par un humain vivant devant vous. Et que tout à coup, on entend une phrase, une formulation, un énoncé, et qu'on se dit, c'est exactement ça que je voulais dire. Et j'avais pas les mots. Donc, moi, je continue à me dire qu'il faut transmettre ces auteurs patrimoniaux aussi parce qu'ils recèlent des formulations miraculeuses. On a parlé du misanthrope la dernière fois qu'on s'est vu. Là, on parle d'On ne badine pas avec l'amour. Si on prend les grandes scènes de Célimène et d'Alceste ou les grandes scènes de Camille et Perdican, elles ont des points communs, ces scènes. C'est que vous avez des gens qui sont dans des situations d'émoi amoureux maximum, qui sont dans des situations de trouble absolu, et qui pourtant réussissent à dire ce qui est une fiction absolue. C'est-à-dire que si on prenait des personnes, des vraies personnes, placées dans les situations émotionnelles des personnages, elles seraient contraintes au balbutiement. Et tout à coup, parce qu'eux prennent le temps, tout simplement, on voit bien que la scène Camille Perdican, la fameuse scène de La Fontaine, c'est le recyclage de 6 mois d'engueulade avec Georges Sand, a priori. Et tout d'un coup, j'ai toujours l'impression, mais pareil pour le misanthrope et les problèmes entre Armande et Jean-Baptiste, enfin, parce que c'est quand même ça, les scènes Alceste-Célimène, c'est aussi les problèmes d'Armande et de Jean-Baptiste, hein, je pense vraiment. Et Camille Perdican, c'est les problèmes de Musset Sand, même si c'est un peu décalé, parce que je pense que c'est que Camille et Musset et que Perdican et Sand, enfin, je trouve que tout ça est mêlé dans les identités de genre, si on peut dire, mais on voit bien que tout d'un coup, à tête reposée, comme on le fait tous quand on s'est engueulé avec quelqu'un, et tout à coup, cette engueulade va vous poursuivre, et pendant des mois et des mois, vous allez dire, j'aurais dû dire ça à tel moment, et on refait à l'infini la discussion, jusqu'à obtenir la discussion rêvée, celle dans laquelle on a enfin réussi à dire. Tout à coup, j'ai l'impression que c'est celles qui sont consignées dans ces pièces. C'est ces disputes, là, on parle de disputes amoureuses, mais il y en a de différents registres, familiales, enfin. La dispute qui finalement est consignée, celle qui va faire la matière du texte, c'est la dispute rêvée, celle qui n'aura jamais lieu, celle dans laquelle on a pu tout dire. Donc c'est des miracles d'énonciation, ces textes. C'est des énonciations miraculeuses à chaque fois. C'est Vitesse qui disait ça sur le misanthrope. Des personnages dans l'état où ils sont ne devraient pas réussir à s'exprimer aussi bien. Il y a une sorte de contradiction, ça c'est très français, entre le feu de la passion et l'exercice implacable de la lucidité et de la raison. Ce qu'arrive à se dire Camille et Perdican dans la scène de La Fontaine, c'est à proprement parler miraculeux. C'est aussi ça qu'il faut redonner à entendre. Parce que ça, c'est des armes. C'est des armes pour soi, c'est des armes pour vivre sa vie. Je trouve que c'est des armes importantes à donner aux jeunes gens, quoi. Donc, si, la chose qu'on peut dire, pour revenir sur pourquoi les classiques, parce qu'il faut continuer à faire de la contrebande d'armes et que, quand on est artiste, à mon avis, c'est d'abord ça qu'il faut faire. Et que... Alors c'est vrai que les vieilles armes pourrissent, hein, comme dit l'autre, mais qu'en même temps, c'est bien d'aller regarder les vieilles armes, parce que dedans, il y a des énoncés qui peuvent encore nous aider, justement parce qu'ils sont lointains, bizarrement, justement parce qu'ils sont éloignés, et que tout d'un coup, cet éloignement même nous permet des ressaisissements de nos situations présentes avec une focale élargie. Je me dis toujours, quand on fait On ne badine pas avec l'amour, j'espère toujours qu'il y a un jeune garçon ou une jeune fille malheureuse dans la salle, qui est en train de vivre un terrible chagrin d'amour, et que les mots qu'elle aura entendus ou qu'il aura entendus ce soir-là vont lui sauver la vie. Je crois à ça profondément, sinon je ne le ferai pas.
Je voudrais peut-être dire quelque chose avant qu'on parle de la question de l'adaptation, modification du texte. C'est à cause de ce que tu dis sur la génération, on va dire, de l'immédiate après-guerre et ce qui se passe maintenant, ça me vient tout d'un coup, moi qui suis, on va dire, d'une génération intermédiaire. C'est la question de la scolarisation. Question que je renvoie aussi du côté de mes étudiants. Ma génération, c'est la génération de Bac 75. Et nous étions 1/4 ou 1/5 à être en terminale. Et moins que ça à faire des études, puisque même moi, sur le moment, je fais totalement autre chose. C'était quelque chose complètement facultatif. Donc j'imagine, je crois sincèrement, aussi à cause de ce qu'on sait sur le TNP, les réseaux, les comités d'entreprise, que l'urgence de l'après-guerre, c'était de donner à voir à des gens dont on partait du principe qu'ils ne connaissaient pas. Et je crois que la génération des Vitesses, de Bauche, etc., a été à la charnière, et que réellement, maintenant, je pense, enfin, c'est pas moi de dire quel est votre travail à vous, mais je crois que maintenant, enfin, vous savez très bien que vous vous adressez à des gens qui, de toute façon, ne connaissent pas forcément, mais sont censés connaître.
Oui, et c'est sans doute dans ce censé connaître, d'ailleurs, que se joue tout ce qu'il y a à faire quand on s'attaque au classique. Moi, quand j'ai fait On ne badine pas avec l'amour et Fantasio, on a accompagné le spectacle d'une petite forme destinée à être jouée dans les salles de classe, qui était trois variations autour de la scène de La Fontaine, trois versions de la scène de La Fontaine, un peu avec la fiction de deux acteurs en train d'essayer de jouer la scène et qui se reprennent. Qui, voilà. Donc c'était à la fois pour montrer de façon assez pédagogique la polysémie du texte, mais c'était aussi pour... face à la question récurrente de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation nationale, s'il faut impérativement faire des choses. Je ne le dis pas simplement comme une obligation ni économique, ni simplement morale. C'est aussi pour des raisons d'intérêt profond. Encore une fois aussi intime et autobiographique. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré le théâtre adolescent. Je crois que c'est là que ça se joue, la rencontre avec le théâtre. Voilà. Donc, tout d'un coup, aller jouer dans les salles de classe, on mesurait bien le fait qu'effectivement, on a affaire aujourd'hui, tout le monde est lycéen, par rapport à ce que tu viens de dire sur la massification scolaire, comme on dit. Et je le dis d'ailleurs, tout le monde est lycéen, je le dis pas à la manière des réactionnaires de droite comme de gauche qui s'en plaignent et qui trouvent ça terrible. Moi, je trouve ça très bien que tout le monde ait le bac. Enfin, le niveau monte, contrairement à ce qu'on raconte. Ben, le niveau baisse pas, le niveau monte. Mais en revanche, ce qui devient compliqué, c'est la question des usages. Des usages de cette culture classique que l'école transmet. Alors c'est vrai que dans les milieux bourgeois, l'usage de la culture classique, il est encore implicitement transmis, ou peut-être pas, mais en tout cas il l'était, on voyait bien, on relisait ses classiques, enfin en tout cas il y avait les livres en cuir dans la bibliothèque de papa ou du grand-père, et qui voilà. Dans des milieux ou dans des familles où cette chose n'est absolument pas transmise, c'est l'école qui s'en charge, et je pense, c'est pas contre l'école que je le dis, mais que ça devient abstrait tout simplement, que ces auteurs deviennent éminemment abstraits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils racontent et qu'est-ce qu'on en fait. Donc un de nos exercices, ça a été simplement de leur rendre, c'est pour ça que je parlais de l'énergie de l'écriture, dans quel type d'état ces textes sont écrits, et de se dire que c'est aussi cet état que les acteurs doivent essayer de traduire. Du coup, c'est simplement et banalement de rendre vivant un patrimoine qui, sinon, reste un patrimoine livresque. Mais je crois qu'on fait énormément en ce moment. Enfin, on sait qu'un des secteurs en pointe dans le secteur culturel actuellement, c'est justement le secteur des musées et du patrimoine, qui, grâce à des tas de techniques, en particulier aux techniques de multimédia, ont réussi à énormément réinventer la fréquentation du patrimoine. Et les journées du patrimoine, la fréquentation des musées, les rapports récents ont montré que ça avait complètement explosé. Et je pense que on doit aussi nous se poser la question de la façon de rendre vivant, habitable et fréquentable le patrimoine littéraire. C'est un peu cette tâche-là que je me donne, mais simplement aussi, encore une fois, comme une mission publique, puisque voilà, je dirige une compagnie qui a des soutiens publics, et que j'ai l'impression que ça fait partie de la mission publique aussi de participer à la revitalisation du patrimoine littéraire national. Et parfois, l'exercice, il est aussi simple que ça. Quand on essaye de le faire. Mais en même temps, je dis aussi simple que ça, pas simplement pour la culture générale, mais aussi encore une fois, parce que je pense que les grands poètes aident à vivre.
Oui, c'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas dans votre mise en scène, c'était vraiment voir autrement, pour les étudiants et les lycéens avec qui j'ai discuté. Et parce que quand j'ai découvert On ne badine pas avec l'amour, c'est vrai que mon attention se focalisait essentiellement sur les amours des jeunes gens, de Perdican et de Camille. Et c'est en voyant votre mise en scène que j'ai vraiment réalisé que le pouvoir religieux et son emprise sur la jeunesse étaient aussi forts dans cette pièce, notamment oui, par la performance d'Étienne Grebeau qui joue Maître Bilaine. Mais j'ai l'impression que je vois tous les thèmes secondaires, mais qui finalement sont mis en évidence par votre mise en scène. Et ça nous permet justement de voir autrement une œuvre, un texte littéraire qu'on n'aurait pas forcément eu l'analyse pour découvrir tout ça.
Bah c'est, je vous remercie, c'est gentil ce que vous dites. Mais, et en même temps, c'est intéressant parce que moi, je l'ai découvert en le faisant. C'est-à-dire que j'étais comme vous quand j'ai commencé à répéter. Je pensais que j'étais en train de monter Les Hauts de Hurlevent. Je pensais que c'était l'histoire des amants maudits. On ne badine pas avec l'amour. Je pensais que c'était l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui ont tout pour être heureux et qui vont eux seuls faire foirer leur amour promis. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais monté les deux en vis-à-vis initialement. C'est que je me disais, tiens, c'est intéressant, dans ces deux histoires de mariage raté, dans Fantasio aussi, hein, mariage raté, le mariage entre le prince de Mantoue et la princesse, mais c'est un mariage forcé, donc on a l'impression qu'on est dans une vieille tradition théâtrale, qui est la question du mariage forcé, et comment est-ce qu'un stratagème et un stratège derrière le stratagème va faire capoter le mariage forcé. C'est un thème qu'on retrouve chez Molière en particulier, très fréquemment, la question du mariage forcé et de ce qu'on fait pour l'éviter. Fantasio, de ce point de vue-là, a une structure assez classique, même si justement on pourrait reparler de Fantasio, la pièce en partant de cette structure classique classique, elle le traite de façon complètement échevelée, complètement à contre-temps. Je sais pas comment dire, c'est du jazz, quoi. C'est, il joue tout à contre-temps. Enfin, une espèce d'art du contre-temps dans Fantasio permanent qui en fait une pièce très étrange, très bizarre. Et dans Badine, moi j'étais convaincu que c'était l'inverse, et c'est ça qui faisait pour moi la modernité du texte, c'est-à-dire c'est un mariage arrangé, mais dans lequel les jeunes gens sont amoureux, ce qui n'est pas le cas dans Fantasio, la princesse n'aime pas le prince, et le prince n'aime pas la princesse, il aime l'amour, comme on dit. Et tout à coup c'est un mariage arrangé, et c'est eux seuls qui vont le faire capoter. Donc ce serait ça la modernité, tout d'un coup de se dire, le pire ennemi ne sont pas les pouvoirs qui empêchent, finalement c'est soi-même, le pire ennemi c'est soi-même. Ça pourrait être ça la modernité quasiment psychanalytique ou comme une sorte d'annonce de la psychanalyse qu'il pourrait y avoir dans ce texte-là, le pire ennemi est en soi. Bon. Et en réalité, quand on monte la pièce, qu'on la travaille de près, on s'aperçoit que Camille et Perdican sont pris, enchâssés, dans un réseau de pouvoir et de rapports de pouvoir, et en particulier cette importance du pouvoir religieux, qui détermine énormément tout ce qui va leur arriver. C'est qu'au fond, ce sont des jeunes gens gâtés, au double sens du terme d'ailleurs, comme des enfants gâtés, mais ils sont aussi pourris, c'est-à-dire ils ont été pourris par leur tuteur, par les gens qui les ont formés. C'est ça qui fait que la pièce est très violente. Et c'est pour ça que je dis que c'est une pièce punk, c'est vraiment une pièce qui regarde la génération qui précède et qui lui crache à la gueule, en disant, ce que fait d'ailleurs le fameux deuxième chapitre de la Confession d'un enfant du siècle, hein, d'une certaine manière, en disant, vous avez été en dessous de tout. Et les personnages de tuteurs dans la pièce, que ce soit le père, ils sont atroces. Oui. Le père, le baron, cette espèce de baron eugéniste dans son château, qui veut absolument marier ses enfants. Enfin, c'est un truc de consanguinité un peu crapoteux et suspect. Et les deux tuteurs, Dame Pluche, qui s'est occupée de Camille. Et puis Camille, en plus, elle va faire le récit de sa vie au couvent. C'est effrayant. Mais cette fameuse scène de La Fontaine, finalement, c'est formation contre formation, année de jeunesse contre année de jeunesse. Perdican dit à Camille, mais t'as été enfermé dans un cachot avec des femmes désespérées, et c'est ça ta jeunesse. Et elle lui répond, et toi, t'as vécu dans les bordels, et c'est ça la tienne. Et c'est vrai qu'il y a les garçons au bordel, les filles au couvent, et que finalement, c'est contre ça qu'ils se révoltent, et que d'une certaine manière, ils font capoter leur mariage. Pas seulement parce qu'ils sont orgueilleux, pervers et sadiques, c'est pas post-sadien comme pièce, ils font tout péter, ils détruisent tout, enfin une espèce de catastrophe, ils déclenchent une catastrophe, mais aussi parce que c'est la réponse, c'est comme du terrorisme en fait, c'est des pièces terroristes d'une certaine manière, Fantasio aussi, le personnage du bouffon c'est un terroriste, c'est un terroriste comique mais c'est un terroriste.
Il y a eu deux changements, en fait, par pièce. Il y a trois ou quatre changements, ou lectures, ou... Allez, je dis en vrac, ouais. Puis tu t'expliques dessus. Ouais. Le fait d'avoir remplacé Spark, enfin, ou d'avoir gardé Spark, mais d'avoir fait de Spark une femme. Ouais. Le fait d'avoir coupé le début, justement, ouais. Dans ce dialogue avec Spark. Ça, c'est pour Fantasio.
Ouais.
Et puis pour Badine, la fin est différente.
Pourquoi la fin est différente?
Non, elle n'est pas différente.
La dernière réplique de la pièce, elle est morte, adieu Perdican, et c'est la dernière chose qu'on entend.
Il y a quelque chose...
Il y a le bouffon qui reste seul en scène et qui dit simplement « pouf » et qui fait s'éteindre toutes les lumières
du
théâtre.
Ah, voilà.
C'est tout.
C'est ça.
Mais le dernier mot qu'on entend, c'est « adieu Camille ». Enfin, « adieu Perdican », elle est morte, « adieu Perdican ». Ensuite, Perdican quitte la scène, Camille quitte la scène, reste seul le narrateur, puisqu'il y a un narrateur, il y a un cœur dans cette pièce. Reste le cœur et que le cœur... fait éteindre le théâtre, mais... Enfin, pardon, j'ai précisé tout de suite, je n'ai pas changé la fin de Badine.
Et la question de l'âne, et puis voilà, dans l'ordre que tu veux.
Ben, on va commencer peut-être par Fantasio. Les changements que j'ai faits dans la pièce ont des raisons essentiellement pragmatiques, en réalité, au départ. C'est-à-dire que c'est très lié à la forme même du projet, qui était donc, enfin, qui est partie d'une découverte très banale, mais qui, enfin pas banale, mais qui était très précieuse, c'est que je pouvais monter les deux pièces avec une seule distribution, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, tout à coup, il fallait faire coïncider terme à terme les personnages d'une pièce avec les personnages de l'autre et s'arranger pour que cette coïncidence raconte quelque chose aux acteurs, d'abord, c'est-à-dire de pouvoir proposer aux acteurs un chemin. Un parcours d'une pièce à l'autre qui puisse faire sens, même de manière secrète et de manière cachée pour eux, mais qui puisse aussi faire sens pour le spectateur, même s'il ne s'en rend pas compte, même si c'est pas un jeu d'essai de famille, hein, il ne s'agit pas de savoir pourquoi il fait quoi, qui fait quoi, etc. Mais il y avait tout un jeu de correspondance entre les deux pièces qu'on a essayé d'établir. Ça, c'est pour répondre à la question « Pourquoi Spark est une fille ?» Tout simplement parce que quand j'ai fait les identifications de rôle, quand j'ai réfléchi sur le rôle, le point de départ, je vais le retracer quand même rapidement parce que ça peut être intéressant à redire. Le point de départ, c'était que je savais quel acteur allait jouer Fantasio et que comme Fantasio devient un bouffon, j'ai su très vite que le bouffon serait le cœur de Badine. Le personnage du cœur de Badine, ce serait le bouffon de Fantasio. C'est-à-dire au fond qu'assez vite, on s'est dit « Finalement, Badine, c'est une histoire racontée par le bouffon ». Il est devenu bouffon, hein, ce que laisse un peu entendre la fin de la pièce. Il dit qu'il ne le deviendra pas comme métier, parce qu'il ne veut pas de métier, mais qu'en revanche, il reviendra volontiers faire le bouffon. Et c'est pour ça qu'on a démarré Badine avec le retour d'Elsbeth, la princesse de Fantasio, dans le jardin, d'une certaine manière, ce fameux jardin dans lequel elle le convie à la fin de Fantasio. Et le bouffon revient, la nuit tombée, raconter une histoire à la princesse. Et quelque chose un peu de cet ordre. Et tout d'un coup... Ben là, on est comme dans un rêve, c'est-à-dire que tout à coup, tous les personnages de la première pièce reviennent dans la seconde, mais dans une réalité sublimée, condensée, enfin, ce qui se passe dans la réalité des rêves. C'est comme s'il utilisait les personnages qu'on vient de voir, qu'il les exfiltrait de la pièce qu'on vient de voir et qu'il se mettait à exister dans un autre temps. Voilà. Donc à partir de là, le roi de Bavière devient assez aisément le père de Perdican. La princesse Elsbeth devient Rosette. Mais ça, je trouvais ça très intéressant que la princesse devienne la paysanne. Enfin, il y avait une sorte de jeu. Parce qu'elle aurait pu devenir Camille, au fond, les deux jeunes premières. Mais justement, je ne voulais pas qu'elle devienne Camille. Je voulais quelque chose un peu plus trouble et que ce soit l'héroïne aristocratique de la première pièce devient la victime paysanne de la deuxième. Enfin, il y avait une sorte de choses qui étaient aussi... Bon, là, je vous raconte des méandres très secrets, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le spectateur raconte tout ça, lise tout ça, mais je pense que ça joue quand même, ça travaille secrètement ce qu'il est en train de voir. Tout à coup, le fait que ce soit la princesse qui meurt, alors que c'est à elle qu'on a raconté l'histoire au début... Enfin, il y avait tout un tas de choses comme ça, un peu troublantes, comme si elle... Il y avait un côté Alice in Wonderland aussi, un côté Alice au Pays des Merveilles, donc tout ça, il y a une façon de passer de l'autre côté du miroir, puis de l'autre côté du miroir, tout à coup, le jeu devient sérieux. Il y avait aussi cette chose qui était que Fantasio, pour moi, est une pochade, je le dis sans aucun mépris, hein, je le dis avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour la pièce, mais il y a une chose assez joyeuse, assez libre, assez déconnante, assez... Il y a une mélancolie du personnage de Fantasio, bien sûr, mais j'ai presque envie de dire, c'est pas une mélancolie pour rire, mais la question, parce que ça reste un punk, comme je le disais, mais c'est comme si la question de la pièce dans Fantasio, c'était bon, et alors maintenant, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ce constat de l'ennui, de l'époque qui n'avance pas, des blocages divers, il choisit de se faire bouffon. C'est une chose en tant que saltimbanque à laquelle je suis relativement sensible, c'est-à-dire quand on se retrouve face à une époque donnée, choisir d'être amuseur, ou divertisseur professionnel, puisque c'est quand même ça mon métier, hein, fondamentalement, et je le revendique comme tel, c'est un choix singulier, donc bon, c'est une pièce assez jolie sur ce que c'est que la création artistique, ou bon, voilà, se faire bouffon. Personnage qui décide de se faire bouffon et pas terroriste, parce que, en tout cas, son terrorisme se fera avec une canne à pêche pour arracher une perruque dans une réception officielle. Il n'est pas venu se faire sauter avec un bâton de dynamite au milieu de la réception, il a fait autre chose. Et ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Bon. Mais ça reste une pièce innocente, je trouve, Fantasio. Je trouve qu'il y a une forme d'innocence dans cette pièce. Il y a une critique des pouvoirs, il y a une critique de tas de choses, mais ça reste une pièce innocente. Alors que Badine est une pièce très sombre, vraiment très noire. Je finis juste sur la... J'aimais bien l'idée que Perdican soit le prince de Mantoue. C'est-à-dire que l'amoureux ridicule, le prétendant ridicule de la première pièce... Le même personnage, le même jeune homme prétendant qui veut se marier. Parce que dans les deux pièces, tout à coup, j'ai dit à Emmanuel Vérité qui interprète les deux rôles, bah, toi, tu vas faire celui qui veut se marier dans les deux pièces. Dans l'une, il est ridicule, dans l'autre, il est tragique. Et c'est pourtant les deux faces presque d'une même médaille, on pourrait dire. Puis il y avait ce ballon rouge qu'il offre, et qu'il offre deux fois de suite à la même fille. C'est-à-dire, il l'offre à Elsbeth dans la première pièce, et il l'offre à Rosette, donc à la même comédienne dans l'autre. Enfin voilà, il y avait ces équivalences. Les deux curés sont les deux sbires de Fantasio, enfin, donc, le sbire du roi et le sbire du prince, le sbire du roi de Bavière et le sbire du prince de Mantoue, donc Ruthen et Marinoni. La gouvernante d'Elsbeth devient assez facilement Dame Pluche, et me restait ma Camille. Et ma Camille était sans emploi dans la première pièce, dans Fantasio. Et tout à coup, je me suis dit, il ne reste qu'un personnage très étrange dans Fantasio, très mystérieux et assez inqualifiable, enfin assez opaque, très opaque en tout cas, puisqu'il est silencieux, qu'il écoute ce long monologue de Fantasio du début de la pièce, enfin quasi monologue. C'est ce fameux personnage de Spark, de l'ami, la question de l'ami. Et qui est une question très intéressante, c'est toujours très intéressant les amis, c'est comme Philinte justement dans Misanthrope. Et tout à coup, l'idée que l'ami ça pouvait être une fille, je trouve que ça racontait une chose intéressante par rapport à Fantasio. D'abord, moi, ça me racontait une chose assez amusante, c'est que l'idée de revoir Camille, enfin de découvrir Camille au tout début du spectacle, alors qu'elle va faire sa propre traversée, et qu'elle va finir défaite, c'est un peu ça qui arrive à Camille, dans cette robe de bal, dans cette robe du soir, la découvrir alcoolisée, au petit matin, dans cette même robe, dans laquelle elle va finir badine, qu'elle commence le spectacle comme ça. Pour moi, tout à coup, ça fait une espèce de boucle assez vertigineuse. Enfin, l'idée que finalement, cette personne un peu désenchantée, parce que le personnage de Spark est quand même un personnage assez désenchanté. Je ne vais pas développer plus là-dessus. Mais ce que je trouvais surtout intéressant, c'est que Fantasio, c'est une pièce qui met l'amour de côté, volontairement et de façon assez provocatrice, puisqu'il n'y a pas d'intrigue amoureuse entre Elsbeth et Fantasio. C'est ça qui est assez beau dans cette pièce, elle est extrêmement décevante, puisqu'on se dit, oui, il va faire capoter le mariage, et puis il y aura bien l'histoire d'amour entre le héros et l'héroïne, entre la princesse et ce personnage éminemment séduisant de Fantasio. Eh ben non. Non. Et d'ailleurs, Paul de Musset, encore lui, quand il a fait la version scénique de Fantasio, a évidemment rajouté une espèce de dernier petit échange entre Elsbeth et Fantasio pour laisser entendre que il se passerait quelque chose. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il ne se passe rien. Et que Fantasio n'est pas du tout venu au château pour séduire la princesse, il s'en fiche. Et elle, comme elle aime les romans et les contes de fées, elle se raconte pendant quelques instants quelque chose sur ce personnage. Mais l'amour n'est pas la question de cette pièce. Ce n'est pas cette question-là qu'il y a dans la pièce. Et donc, tout d'un coup, cette amitié entre... Le fait qu'il y ait de l'amitié, simplement, entre un homme et une femme au début, parce que pour moi, c'était ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté amoureuse dans ce couple quand on voit Fantasio et Spark. C'est un copain et une copine, une vieille copine. Et quand il lui dit « L'amour n'existe plus, ma chère amie », là on a changé le texte. Je trouvais ça presque plus fort que « L'amour n'existe plus, mon cher ami ». Tout à coup, le fait que ce soit adressé à quelqu'un de l'autre sexe, à une amoureuse potentielle, pour Fantasio, sauf que c'est tout sauf une amoureuse, voilà, ça m'intéressait. Mais je l'ai aussi fait pour des raisons pragmatiques, qui étaient que je voulais faire rentrer au forceps une distribution dans l'autre. Et c'est aussi pour ça que j'ai coupé le début de la scène, c'est-à-dire les personnages d'Hartmann et Facio, c'est-à-dire les autres compagnons de beuverie de Fantasio. Je les ai coupés d'abord parce que c'est une scène de... Ça c'est les scènes chiantes du théâtre dans un fauteuil. Voilà. Ça, c'est-à-dire c'est les scènes pénibles où il fait ça vraiment pour faire chier. C'est comme les scènes de marché dans Lorenzaccio. Tout à coup, il vous fait... il est censé y avoir 50 personnes sur un marché. Bah là, c'est la terrasse d'une taverne et on est dans une ville en fête qui est en train de faire des préparatifs de fête. C'est ce qu'il ne cesse de commenter, il regarde passer des gens, ils disent qu'il y a des illuminations, des pétards, des choses, etc. Tout ça, c'est vraiment fait pour emmerder le monde, donc je l'ai coupé. Voilà, je l'ai coupé parce que j'avais pas envie de me casser la tête à mal faire une chose que le théâtre fait pas bien, qui sont des scènes de foule ou des choses comme ça. J'avais pas les moyens en termes de personnel et j'avais pas du tout l'imaginaire pour m'engager là-dedans. À part cette scène, la totalité du reste de la pièce sont des duos. Comme un opéra qui serait fait avec des duos. Ce ne sont que des duos. C'est une succession de duos, cette pièce, elle est très étrange. À part cette première scène, mais bah, j'en ai refait un duo, c'est-à-dire que je l'ai rabattu sur le duo Hartmann, Spark Fantasio.
Fin de cette deuxième partie.